Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Mathias Maurer, éducateur au sein du club néerlandais Demmen. Avec lui, nous avons abordé son parcours, son arrivée aux Pays-Bas, l'importance de ses voyages et des discussions avec des éducateurs du monde entier, ainsi que les spécificités du football néerlandais. Nous avons également évoqué quelques points de comparaison entre la France et les Pays-Bas autour de la formation des jeunes footballeurs. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Mathias Maurer. Bonjour Mathias Maurer et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour Johan, merci pour l'invitation.
Alors dans ce podcast Mathias, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué? Alors ça peut être soit par son scénario, par une émotion, par un résultat pur, s'il n'y a que le résultat qui t'a marqué sur ce match-là. J'aime bien dire que c'est ton meilleur souvenir foot, ta Madeleine de Proust à laquelle tu repenses de temps en temps.
Parler d'un match en particulier, alors en tant que joueur ou en tant que coach, c'est toujours difficile. En tant que supporter ou que jeune garçon, ce n'est pas forcément un match en particulier, c'est plutôt la Coupe du Monde 98. Le fait que ça soit en France, donc à l'époque j'étais un jeune garçon, je jouais au foot, j'avais eu la chance d'assister à un match à la Beaujoire, c'était États-Unis-Yougoslavie. Puis à l'époque sur la ville à Nantes, il y avait eu des écrans géants un petit peu partout, donc j'avais assisté à pas mal de matchs. Et puis la finale contre le Brésil, ça reste pour moi des souvenirs assez importants par rapport au football.
Alors généralement, j'aime bien demander à mes invités, dont je ne connais pas tout du parcours, quel était leur rapport au football quand ils étaient enfants et adolescents. Et pour toi, c'est un peu plus simple, parce que je le sais, ça s'est passé notamment sur les terrains du FC Nantes. Est-ce que tu peux nous raconter cette période d'enfance et d'adolescence sur les pelouses de Nantes?
Après, comme beaucoup de jeunes garçons aujourd'hui, on a toujours nos premiers contacts avec le ballon. Me rappeler, moi, du premier contact, honnêtement, je ne m'en souviens pas, mais je sais quoi, dès le plus jeune âge, j'étais vraiment attiré par ça, que ce soit dans le jardin, à la maison, avec les voisins, à l'école. Et puis ensuite, y a eu au foot, donc j'ai eu ma première licence. Donc nous, à l'époque, c'était les débutants, donc ce n'était plus la question des U6 ou ainsi de suite. J'avais commencé vers l'âge de 5 ans. Donc à l'époque, au FC Nantes, on avait une séance le mercredi après-midi et puis des plateaux. Alors, est-ce que c'était toutes les semaines ou est-ce que c'était une fois tous les 15 jours? Pareil, je ne pourrais pas m'en souvenir, mais c'était là-bas mes premiers contacts avec le ballon. Donc ensuite, j'ai joué plusieurs saisons au club où j'ai pu découvrir une culture, une façon de jouer, une façon de s'entraîner, être dans un environnement à la Genolière qui était et qui est toujours exceptionnel. Des matchs à la Beaujoire dans les années, on va dire, de succès de Nantes qui ont été couronnés là, dernièrement, c'était dans les années 2000, dernier titre. Donc des super souvenirs d'enfants Et puis, lorsque je n'ai pas été conservé, j'ai continué à jouer un peu dans un club amateur de la région qui s'appelle la Millénette, avant de devenir éducateur.
Est-ce que tu fais partie de la génération « j'aurais pu être professionnel, mais tu sais les croiser
» Non, pas du tout. Je fais partie de la génération du... J'étais un gamin qui adorait le foot, j'ai pas mal joué. J'ai eu à l'époque, c'était quoi, le Ausgutschlatter que j'ai eu aux deux genoux, où j'avais pas joué pendant quelques temps. Mais je fais surtout partie de la génération du « j'aime le foot, mais j'ai pas le niveau pour jouer professionnel ».
D'accord, tout simplement. Du coup, comment, une fois que tu quittes Nantes, que tu joues en amateur, comment se fait cette transition finalement assez rapide entre le football en tant que football joué, ça s'arrête pour moi, et la volonté ensuite de devenir assez rapidement éducateur? Comment se fait cette transition? Est-ce que c'est une suggestion qu'on t'a faite? Est-ce que c'était une volonté de ta part de, alors peut-être pas de forcément être éducateur, mais en tout cas de rester au contact du football?
Donc en gros, lorsque j'ai pas été conservé, après j'ai rejoué dans un club amateur, donc comme je disais, la Millénette. Et c'était différent. On arrive dans un environnement différent de ce que j'avais pu connaître. Et puis lorsque je joue, alors je sais plus sur quelle année c'était, vers les 15-16 ans, j'avais été pas mal blessé. J'avais eu plein de petits soucis, un coup de un peu cassé, mais j'avais eu un problème au coude. Après j'avais eu un nez cassé. Après j'avais eu un problème à la cheville. Et puis au final, il y avait moins de plaisir en tant que joueur. À côté, je découvrais d'autres activités. Et puis jusqu'au jour où j'ai dit que l'année prochaine, j'allais pas re-signer une licence. Et en gros, j'ai eu pendant un an où j'ai eu, j'ai pas joué au foot, j'ai pas encadré, j'ai rien fait du tout. Et ensuite, dans le cadre d'une formation, donc à l'époque, c'était les brevets d'État encore. Avant les brevets d'État, on passait donc le tronc commun. Je voulais faire, donc à l'époque, c'était le BE des métiers de la forme pour être instructeur de fitness. Et donc, j'avais fait une année de pré-formation qui était l'équivalent d'un tronc commun. Et là, on m'a dit, super Mathias, t'as un bon profil, mais peut-être qu'il faudrait aussi que tu encadres des groupes, que tu te fasses un petit peu d'expérience sur le terrain. Et puis, à cette époque-là, j'avais à peine 17 ans et je me suis dit, la seule chose que j'aime et que je connais un peu, c'est le foot. Donc, je me suis retrouvé à retourner à la Genolière. Et donc là, j'ai des responsables qui à l'époque étaient moi mes éducateurs lorsque j'étais enfant, et je leur ai expliqué un petit peu ce que j'avais envie de faire, quelle formation j'avais envie de faire, et qu'aujourd'hui je sais pas s'ils avaient besoin d'un coup de main, mais ça m'intéresserait de venir sur le terrain avec un autre rôle. Et donc c'est comme ça que ça a commencé il y a maintenant une quinzaine d'années presque.
Donc du coup c'est pas forcément avec une destination en tête de football que t'es retourné sur les terrains dans un autre rôle? C'était dans ton parcours au départ pour travailler sur la préparation physique, entre guillemets, le fitness en fait.
Exactement. Lorsque je suis revenu la toute première fois, donc à l'époque à Nantes, on avait des ateliers de psychomotricité. Donc ça, c'était sur l'école de foot. Tous les mercredis, il y avait un atelier. Et au final, c'était ce qui m'attirait le plus en fait, peut-être plus même que le jeu en lui-même. Et puis on fait quelques entraînements, quelques mois. Et puis on se prend au jeu. On se prend en jeu, et puis j'ai continué, on va dire, une deuxième année. J'ai pas passé le BE, mais c'était un BPJEPS à l'époque. Ça avait changé en cours de route. J'ai validé mon BPJEPS, et puis j'ai pris goût à être sur le terrain. J'ai pris goût à être avec des garçons, à partager, à communier avec eux autour de cette passion-là.
Alors, quand tu disais que ce qui t'intéressait beaucoup, c'était tout ce qui était lié à la motricité, etc. Du coup, quand tu deviens éducateur et que tu dois construire des séances d'entraînement, etc., est-ce qu'il y a eu des bases importantes que toi, tu avais connues comme adolescent, enfant-adolescent au FC Nantes, joueur cette fois-ci, qui t'ont accompagné dans ta découverte et ton apprentissage de ton rôle d'éducateur?
Après, ce qui est important, c'est qu'au tout début, lorsque je suis arrivé donc à l'époque là, sur les débutants, je n'avais pas une équipe en charge, je n'avais pas de responsabilité de créer des séances ou ainsi de suite. C'est venu, ça veut dire, un petit peu étape par étape. À l'époque, il y avait, un travail technique. On découpait souvent l'entraînement et le terrain en différentes zones. On peut appeler ça un peu sous forme de carrousel où les garçons, entre guillemets, passaient d'un atelier à un autre atelier. Et les éducateurs restaient en place et devaient animer à chaque fois un morceau de la séance. Et donc au tout début, je devais sûrement animer les jeux un peu scolaires, genre les types épervier ou ce genre de choses-là. Ça n'avait pas un impact direct avec la psychomotricité. Il y avait une personne qui était responsable de ça. Mais c'était quelque chose qui, moi, m'attirait directement. Donc, je sais que je prenais en note toutes ces séances. Et c'était vraiment ça qui m'intéressait plus que le coaching, on va dire.
D'accord. Et donc, après, du coup, quand tu passes à un rôle plus évolué, entre guillemets, c'est-à-dire que là, tu as en charge beaucoup plus de choses, est-ce que la spécificité du FC Nantes, avec cette identité de jeu très forte qu'on a beaucoup connue en équipe première parce que c'était la vitrine, mais qui existait dans toutes les strates de la formation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a marqué, inspiré, sur lequel tu as pu te reposer aussi parfois ?
Après, il y a toute une, on va dire, il y a toute une base, il y a tout un socle. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler dans différents clubs des principes de jeu. À Nantes, c'est sûr qu'il y a eu une identité qui a été voilà, vraiment connue, même aussi dire copiée par pas mal de clubs. Et il y a tout un tas, on va dire, d'exercices ou de procédés que j'ai pu, entre guillemets, connaître en tant que joueur lorsque j'étais enfant, que j'ai pu ensuite apprivoiser d'une manière un peu différente en tant que jeune éducateur. Et puis, qui ont bien sûr une influence sur la personne que je suis, qui ont bien sûr une influence sur ma vision aujourd'hui, oui.
En parallèle de ton rôle d'éducateur, tu as suivi un cursus universitaire, si je ne me trompe pas, en sociologie. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans la construction de ton parcours professionnel ? Et est-ce que ça a affiné ta... Alors, peut-être pas ta vision du foot, mais en tout cas de l'éducation, des rapports humains et interpersonnels, de la communication au sein d'un groupe. Qu'est-ce que ton parcours universitaire a apporté dans l'élaboration, dans l'apprentissage, dans ton parcours professionnel lié au terrain ?
Énormément, ça m'a apporté énormément de choses. Aujourd'hui, quand je prends un peu de recul par rapport à mon parcours, voilà, j'ai passé un premier BPJEPS, j'ai terminé cette formation-là, et puis je me suis dit c'était dommage que j'avais encore peut-être pas mal d'autres choses à voir et à apprendre. Donc, j'ai fait un deuxième BPJEPS, c'était le loisir tout public. Et là, ça n'a rien à voir avec le foot, mais ça avait été un stage pour moi qui avait été déterminant. Donc j'avais à peine la vingtaine, et en gros, j'avais donc un stage en alternance dans une maison de retraite. Et en gros, que j'apprenais au travers des formations initiateurs ou au travers de comment est-ce qu'on guidait au foot, c'était que sur chaque séance, il fallait qu'il y ait entre guillemets un objectif, que si j'avais cet objectif-là, qu'est-ce que j'allais mettre en place pour atteindre mon objectif. Et en gros, j'avais aussi tendance à mettre ça entre guillemets dans ma vie de tous les jours et aussi à la maison de retraite. Et un jour, j'avais rencontré une personne et j'avais dit venez, il y a tel atelier, on va pouvoir faire telle chose aujourd'hui. Et cette personne-là m'a dit je vais pas venir à l'atelier, par contre, si vous voulez venir juste pour discuter avec moi une fois que ce sera terminé, ça sera avec plaisir. Et au final, c'était une personne avec laquelle j'ai échangé énormément. Et ça m'a fait prendre conscience que parfois, l'animation au sens large ou parfois l'activité du foot au sens large, c'était pas simplement atteindre un objectif, mais c'était aussi avoir dans un contexte particulier des relations humaines particulières avec des joueurs, avec d'autres staffs. Et c'était le chemin qu'on allait parcourir ensemble qui allait parfois être aussi intéressant que l'objectif que l'on avait atteint. Et à la suite de cette formation-là, j'avais commencé un DEGEPS, toujours dans l'animation. Et c'est là où j'ai rencontré un directeur qui m'avait fait lire pas mal de choses sur la sociologie. Et je m'étais intéressé à ça et je me suis dit, c'est exactement dans ce que j'ai besoin, de pouvoir prendre du recul par rapport aux choses, par rapport aux gens, pour comprendre un petit peu qui est-ce que je suis, où est-ce que je vais et qu'est-ce qui se passe autour de moi, quelles sont les relations entre les gens, les interactions, qu'est-ce que l'on peut créer ensemble. Et ça, aujourd'hui, ça a encore un impact sur ma vision du foot, sur ma façon d'encadrer et aussi parfois d'essayer de prendre un peu du recul par rapport à ce qu'on peut vivre au quotidien.
Et du coup, ce double parcours universitaire, alors formation, ensuite universitaire, ensuite lier tout ça à ton développement en tant qu'éducateur, tu estimes aujourd'hui que ça t'a permis peut-être d'accélérer ton apprentissage, de comprendre plus de choses, de pas être tête baissée peut-être et de pas accumuler des erreurs. Alors certes, je pense que des erreurs t'en as fait et tu as évidemment appris comme tout un chacun d'ailleurs et pas seulement dans le monde du football, mais est-ce que tu estimes que cette réflexion-là, cette pause entre guillemets, t'a permis aussi d'avancer un peu plus facilement et un peu moins avec un voile sur le visage entre guillemets.
Oui, aujourd'hui, je suis plus forcément l'éducateur que j'étais il y a quelques années. Lorsqu'on est jeune éducateur, on a souvent tendance à se dire que c'est comme ça qu'il faut faire, que j'aurais fait autrement, et puis on se rend compte un petit peu avec le temps, avec les expériences, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Les recherches entre guillemets universitaires et la formation que j'ai pu avoir universitaire, le master était composé vraiment et on avait pas mal d'enseignants chercheurs qui arrivaient avec des profils très différents. Le groupe qu'on était aussi était assez restreint et on venait tous avec un parcours différent et des envies différentes. Moi, je sais que mes deux recherches, celles que j'ai faites en Master 1 ou en Master 2, je les ai faites uniquement autour du foot. Et puis, ça permet de prendre du recul, de voir les choses différemment, que le ballon, entre guillemets, ou le match nous rassemble tous autour de la même chose. On a tous des c'est pas des enjeux, mais on a tous un rapport différent à, par rapport au foot.
Et justement, ce cursus universitaire montre aussi quelque part une certaine forme de, je sais pas si c'est de curiosité, mais le fait de s'intéresser à d'autres disciplines, entre guillemets, t'as poursuivi cette volonté de découverte, d'échange, de curiosité, justement, en parallèle sur ton métier d'éducateur. Tu as fait beaucoup de voyages, des voyages purement foot, des voyages privés, mais qui ont aussi permis de s'enrichir sur ta vision, enfin oui, enrichir ta vision du football, rencontrer des fédérations, rencontrer des personnes à travers le monde. Qu'est-ce que toutes ces expériences t'ont apporté aujourd'hui, du coup, dans les différents pays que tu as pu traverser, les États-Unis, l'Angleterre et d'autres ?
Elles m'ont permis de grandir. Aujourd'hui, lorsqu'on est dans son petit environnement, dans son club, avec son groupe, on a souvent tendance à voilà, peut-être un peu foncer, tête baissée, à vouloir faire voilà, progresser les garçons, à leur apporter un maximum, à leur maximum de choses. Et puis, lorsqu'on se met un petit peu à voyager, on se rend compte qu'il y a d'autres cultures, il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres personnes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la lecture, avec Internet, on peut vraiment voilà, récupérer énormément de choses de ce qui se fait à l'extérieur, s'en inspirer. Et je pense aussi que le fait de rencontrer des personnes qui ont vécu des choses dans un autre contexte, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir comprendre la façon dont eux voient les choses et pourquoi est-ce qu'ils mettent les choses en place, que ce soit dans leur club ou dans leur pays, avec les contraintes qui sont les leurs. C'est extrêmement riche pour ensuite se dire est-ce que moi je suis d'accord avec ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse ? Est-ce que c'est quelque chose que moi je pourrais réutiliser ? Ça fait énormément grandir et réfléchir.
Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples de choses qui t'ont marqué lors de ces voyages sur une manière de voir le football, de l'appliquer, d'éduquer les jeunes, de concevoir le métier d'entraîneur, d'évaluer peut-être aussi par exemple les progrès, les joueurs, les qualités, etc. Je ne sais pas si on parle de ton expérience aux États-Unis par exemple. Le sport aux USA est quand même très très différent de ce qu'on connaît nous en Europe par exemple.
C'est très différent. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance de pouvoir partir aux États-Unis donc plusieurs étés sur des stages. Donc, c'était une compagnie qui organisait donc des stages l'été, qui avait été créée par 2 Anglais, dont un qui avait été joueur et éducateur pendant de nombreuses saisons à Chelsea. Et en gros, le concept de leur stage, c'était de réunir un maximum d'éducateurs de différents clubs pro à travers le monde. Donc, le premier été où j'y suis allé, il y avait donc des Anglais qui travaillaient à Liverpool ou à Arsenal. Un Russe qui arrivait du Zénith Saint-Pétersbourg, un Italien, il y avait Brésilien, Argentin. Et en gros, on se retrouvait tous ensemble, des semaines complètes, et on avait nos temps, entre guillemets, d'entraînement où on faisait des séances pour les garçons. Puis ensuite, il y avait tous les temps off où on se retrouvait entre nous, qui nous permettaient de discuter de la journée, mais aussi de discuter de ce que chacun faisait dans son club. Et on se permet de voir, entre guillemets, qu'on n'a pas les mêmes façons de faire au quotidien, mais que malgré tout, on va avoir des choses en commun, qu'il y a des choses qui aujourd'hui se voyagent d'un pays à l'autre, et que ces procédés-là, on peut les retrouver un peu partout.
Par curiosité, est-ce qu'il y avait des Français qui suivaient ces stages-là ?
Alors j'ai eu là-bas des joueurs, des garçons qui étaient français ou de famille française. Il y en avait un à New York, donc c'était des Français qui vivaient à New York, et un de leurs garçons participait à ces stages-là. On a été aussi sur 2 semaines au Canada, où là-bas aussi il y avait des familles expatriés français dont les enfants participaient à ce stage.
Et en éducateur ?
Et en éducateur, il y en avait un autre que moi, je n'ai pas connu, je n'étais pas sur les mêmes semaines que lui, qui était du FC Metz.
D'accord. Donc, après avoir fait tes gammes, entre guillemets, en tout cas avoir démarré ta reconversion d'éducateur au FC Nantes, tu as quitté la France et tu exerces maintenant aux Pays-Bas, à Emmen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Emmen, c'est au nord-est des Pays-Bas, tout proche de la frontière allemande. Est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée dans ce pays et comment tu t'es retrouvé à Emmen ? Parce que j'imagine qu'il y a des éducateurs aussi qui nous écoutent, qui se disent « moi, j'aimerais bien aussi aller à l'étranger ». Alors, il faut pas mal de prédispositions aussi personnelles et professionnelles pour y aller. Mais est-ce que tu peux nous partager cette expérience de cette arrivée aux Pays-Bas ?
Oui, ça va bientôt faire 5 ans maintenant que je vis ici. Donc il y a environ 5 ans, j'étais arrivé, peut-être d'un point de vue personnel, à un moment où j'avais envie de voir autre chose. Donc ça, voilà, j'avais voyagé dans plusieurs pays. Mon amie donc, est néerlandaise, on se connaissait déjà à cette époque-là. Puis on était à un tournant où il fallait prendre des décisions. J'aurais pu partir dans un autre pays, aux États-Unis notamment, j'aurais pu aller là-bas. Et puis avec mon amie, on a réfléchi à qu'est-ce qui était le plus faisable. Et puis, un jour, je lui dis, OK, je vais venir vivre aux Pays-Bas. Donc, à cette époque-là, j'avais contacté une personne que j'avais, qui s'appelle Leonardo, que j'avais en contact, et en lui disant que l'année prochaine, j'allais venir vivre aux Pays-Bas, et que si jamais il entendait qu'il y avait des clubs qui étaient intéressés, que j'étais dispo. Voilà. Et donc, il m'a dit, ce que tu peux faire, tu peux peut-être envoyer des mails ou ton CV à différents clubs, expliquer pourquoi tu viens là, qui tu es, et ainsi de suite. Donc, il m'avait donné pas mal de contacts. J'avais envoyé des mails à tous les clubs, mais presque tous les clubs aux Pays-Bas. Avec certains, donc, j'ai eu des retours négatifs, d'autres pas de réponse. Et puis, donc, c'était au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. J'étais venu passer quelques jours en préparation de mon arrivée. Et je me suis dit, j'ai toujours pas de réponse. Vas-y, je vais aller clairement dans les clubs, on va voir, peut-être que je peux voir quelqu'un, ou ainsi de suite. Et donc, je suis allé à Emmen. Et lorsque je suis arrivé à Emmen, dans le stade, donc il y avait la séance des pros à l'époque. Et en allant m'installer dans le stade, j'ai rencontré le directeur du centre qui m'a dit « Mais est-ce que c'est pas toi qui as envoyé ton CV il y a quelque temps ?» Et j'ai dit « Si.
» Surprise, me voilà.
Voilà. Et donc au final, j'ai discuté avec lui. Ça a duré, peut-être 2 heures. C'était un assez long entretien sur mes motivations, qui j'étais, comment fonctionnait le club. Et donc il m'a dit « On reste en contact, ton profil pourrait nous intéresser. » Donc je savais après comment fonctionnait le club au niveau des jeunes. Et il m'a dit sur les catégories à l'époque, c'était sur les U11, U12, U13. Donc il y avait à chaque fois des binômes d'entraîneurs. Donc ce qui permettait peut-être pour moi de m'intégrer au fur et à mesure au club. Et puis à la sortie de cet entretien-là, j'appelle la personne que je connaissais et je lui dis j'étais à Emmen aujourd'hui, j'ai eu un super bon contact avec telle personne. Et lui me dit j'ai rendez-vous avec lui cet après-midi, peut-être que j'en parlerai. Alors honnêtement, il ne me l'a jamais dit, donc je ne sais pas si c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai eu cette opportunité-là. Mais voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait mon arrivée à Emmen. Donc ensuite, il y a eu pas mal d'échanges de mails, de téléphones pour savoir à quelle date j'allais arriver précisément et quel jour j'allais commencer.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais à Emmen? Quelles sont tes fonctions? Parce que dans ce club-là notamment, c'est sans doute pas le seul, mais les éducateurs ont, on va dire, une double fonction, c'est ça? C'est-à-dire que vous partagez votre temps de travail, parfois sur plusieurs niveaux de catégorie d'âge.
Exactement. Donc quand je suis arrivé aux Pays-Bas, donc à l'époque, j'étais en temps partiel. Donc j'étais entre guillemets présent que sur les entraînements. Et donc maintenant, depuis 3 ans, on est 4 entraîneurs à temps plein. Donc il y a le coach des 13, des 14, des 18 et des U21. Et en gros, donc, on a cette double fonction-là. Donc par exemple, le matin, moi, mon emploi du temps, c'était que le matin de 8h à 10h, donc c'était la séance des U14. Et donc, sur la séance des U14, le coach des 18 va venir avec moi pour qu'on puisse animer la séance à deux. En même temps, sur la séance des 13, le coach des U21 venait en soutien du coach des U13. Et donc, l'après-midi, sur la séance des U21, moi, je venais en soutien du coach des 21. Et sur la séance des 18, le coach des 13 venait en soutien. Donc, on avait un peu ces relations-là où on était à quatre, où on tournait sur deux équipes. Donc, ça nous permet de pas être simplement avoir le focus pas simplement sur un seul groupe, mais d'intervenir sur deux groupes, sur deux catégories d'âge différentes, avec deux objectifs clairement différents. Donc, c'est quelque chose de très, très riche et qui nous permet aussi d'être un peu plus dans l'échange. Dans certains clubs, on va avoir un coach par équipe où l'entraîneur va être honnêtement inhibé par ce qui va se passer avec son groupe, avec sa progression, avec ses résultats. Le fait de partager aujourd'hui... Ces doubles missions nous permettent de prendre un peu de recul et de partager au quotidien les bons et les bons moments.
Justement, tu parlais de la richesse de cette double fonction, entre guillemets, au-delà même des échanges que tu peux avoir avec d'autres entraîneurs. Les U14 et les U21, c'est deux catégories d'âge très différentes, avec une maturité des joueurs différente, une compréhension et une application du jeu différente et supérieure au final. C'est assez normal. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, du coup, si on est là plus sur l'aspect terrain, on va dire, et un peu moins sur l'aspect échange avec l'autre entraîneur, l'autre éducateur?
Déjà, l'approche de l'entraînement, l'approche aussi, entre guillemets, lorsqu'on va avoir un groupe de U14, ces garçons-là, l'objectif, c'est que peut-être dans quelques années, eux puissent aussi faire partie du groupe U21. Donc, ça permet de se dire, c'est quoi le niveau, c'est quoi la barre, quel est le niveau à atteindre. Dans le management et même dans l'animation des séances, c'est très différent. Aujourd'hui, ces garçons-là, en U21, c'est des jeunes adultes. On va peut-être pas leur parler de la même façon qu'on va parler à des adolescents. On va peut-être pas amener non plus les thèmes d'entraînement de la même façon. Aujourd'hui, les garçons qui sont en U21, ils sont dans la post-formation, ils sont là, entre guillemets, pour passer cette dernière marche, pour rejoindre le groupe pro. Donc, il va y avoir peut-être un accommodement qui va être encore plus individualisé. D'un point de vue tactique. On va pas forcément leur dire ce qu'on va faire. On va être plutôt dans l'échange, le comment on va pouvoir le faire, comment on va réaliser les choses, comment est-ce qu'eux, ils ont ressenti les choses sur le terrain pour essayer de venir gommer un petit peu les imperfections. Alors que avec les U14, on est encore dans un âge où bah, y a pas mal de découvertes. Au travers des différentes situations et des différents matchs, on va pouvoir encore, avec ces garçons-là, découvrir des choses où ils vont avoir vraiment besoin de billes, vraiment besoin de conseils. Alors que sur les U21, c'est plus dans l'échange.
Tu es plus directif du coup avec les U14?
Oui.
D'accord, très bien. Maintenant que tu as un peu de recul sur le football néerlandais, ça va faire 5 ans, tu l'as dit, que tu es à Emmen. Quelle différence fondamentale tu vois entre leur vision de la formation, de l'éducation au football, de comment réussir à amener ces enfants-là d'abord et ensuite ces adolescents-là à, bah on sait que tous n'y arriveront pas, mais au plus haut niveau, ou en tout cas à arriver jusqu'au niveau professionnel. Comment tu juges cette approche-là néerlandaise avec ce que tu as connu en France, par exemple, au FC Nantes?
Après, il y a pas mal de... J'ai pas envie de dire des choses, entre guillemets, ce club-là fait telle chose, ce club-là fait... Je pense qu'aujourd'hui, il y a des différences qui sont très nettes de culture entre les deux pays. Moi, l'une des premières choses qui à l'époque, m'avait choqué lorsque j'étais arrivé aux Pays-Bas, c'était cette culture de l'élitisme. La taille du pays fait aussi que c'est plus facile de pouvoir faire des matchs entre guillemets entre clubs pro. Mais à cette époque-là, aux Pays-Bas, donc il y avait la compétition U13, compétition avec montée et descente. Donc les matchs étaient deux fois 35 minutes. Il y a des clubs qui avaient des équipes de 20 joueurs et ça posait aucun problème à personne qu'il y ait un garçon qui joue que 5 minutes à l'âge de 13 ans. Et aujourd'hui, du moins à l'époque, c'était pas comme ça que ça se passait en France. Sur les catégories U13, aujourd'hui, organiser un match, les U13 du FC Nantes contre les U13 de Marseille, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire tous les samedis. À l'inverse du Pays-Bas ou entre guillemets du nord au sud, on peut se déplacer très facilement, 2-3 heures de voiture, on y est, donc c'est plus facile d'organiser ces matchs-là. Et en France, je pense qu'on avait aussi cette, du moins à mon époque, ça a sûrement dû encore évoluer. Lorsqu'un garçon d'un club amateur avait un certain niveau et que le club professionnel lui proposait d'intégrer la structure, parfois il y avait certaines réticences des clubs amateurs ou peut-être même des familles. Alors qu'aux Pays-Bas, dès qu'il y a le moindre garçon qui est invité par un club pro, il y a une certaine fierté du club amateur et les garçons sont tout de suite poussés à aller vers ces structures professionnelles.
Et sur l'approche du jeu, est-ce que tu as senti... Alors, ce n'est pas forcément l'idée de comparer Emmen et Nantes, parce que déjà, c'est deux réalités qui sont aussi assez différentes. Mais avec les échanges que tu as eus aussi en France et les échanges que tu as eus aux Pays-Bas, parce que vous échangez évidemment entre éducateurs et pas seulement au sein d'un même club, sur l'approche du jeu, est-ce que tu as senti quelque chose de différent? Pour en parler avec des éducateurs étrangers, j'en ai parlé avec des éducateurs aux Pays-Bas, mais aussi en Italie, ce qu'ils aiment beaucoup en France, c'est ce côté... créatif et liberté parfois qu'on laisse aux joueurs, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être un peu moins formatés ou formés ou dirigés, entre guillemets, et il y a toujours un côté créatif qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Alors notamment en Italie, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup en France, c'est-à-dire qu'en Italie, ils aiment dire qu'eux, ils forment de très bons professionnels, alors que quand ils regardent en France, ils envient un peu le côté moins rigide de la formation française, avec des profils créatifs qui émergent beaucoup plus facilement en France qu'en Italie. Je te donne un exemple hein, entre l'Italie et la France, mais est-ce que entre les Pays-Bas et la France, toi, tu as vu des approches, des constructions un petit peu différentes?
Oui, il y en a sûrement énormément. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, il y a une culture, un héritage qui est énorme, qui est très fort. La période Cruyff et donc le football avec le 1-4-3-3, la façon de défendre en avançant, c'est des choses qui aujourd'hui sont ancrées au niveau du pays.
Parce que tu sais, je me permets de te couper, on a parfois l'impression en France que c'est l'influence de Cruyff, de Rinus Michels, etc. On a l'impression que c'est un peu cantonné à l'Ajax. C'est-à-dire qu'on évoque toujours ça quand on parle de l'Ajax. Mais en fait, il faut aussi se rendre compte que c'est à l'échelle du pays. C'est pas simplement à l'échelle d'un club que toute cette influence-là, aujourd'hui, permet de construire toute une méthodologie et une approche du football.
C'est vraiment à l'échelle du pays. Aujourd'hui, il y a plein de différences. Je suis en train de repenser à quelque chose par rapport à la fédération, peut-être que faudra que j'y revienne ensuite, mais par rapport à cette notion de schéma tactique ou de système, ma première année, quasiment tous nos adversaires jouaient tous dans le même système. On se retrouvait tous les week-ends avec les mêmes types de matchs, avec les mêmes types d'adversaires. un petit peu stéréotypé. Les Pays-Bas ont eu, sur les 10 dernières années, quelquefois avec des résultats décevants, même sur l'équipe nationale. En toute humilité, ou du moins c'est mon perception, c'est peut-être qu'à une époque, l'héritage était tellement fort aux Pays-Bas, tellement ancré, que bah, peut-être qu'à un moment donné, ils ont oublié d'évoluer, ils ont oublié de chercher autre chose. Et ils sont restés peut-être un peu cantonnés à ce qu'ils savaient faire et à ce qu'ils faisaient de bien. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui est critiqué souvent dans la presse en France, qu'il n'y a pas d'identité. Mais parfois, le fait de laisser une certaine forme de liberté ou que le club A n'ait pas envie de fonctionner de la même façon que le club B parce qu'ils n'habitent pas dans la même région, parce qu'ils n'ont pas la même idéologie, c'est aussi une forme de richesse. C'est aussi une force.
Tu voulais parler d'un élément au niveau de la fédération ?
Oui, je pensais à ça. J'ai travaillé aussi aux Pays-Bas dans un club qui s'appelle ACV Assen. Donc c'est un gros club amateur de la région nord des Pays-Bas. Il y a 2-3 ans, il y avait eu donc une réforme du nombre de joueurs qu'il pouvait y avoir sur les U12. Parce que lorsque je suis arrivé aux Pays-Bas, les U12 des clubs pro jouaient déjà 11 contre 11. Et donc là, depuis cette saison, maintenant, c'est passé où les clubs jouent à 8 contre 8 sur une moitié de terrain comme en France. Et en fait, on s'était retrouvé avec une réunion avec tous les gros clubs de la région pour discuter, entre guillemets, de la possibilité de créer un championnat uniquement pour les U12. Et en fait, c'était une initiative de la fédération, donc de la région nord des Pays-Bas, qui avait invité ces clubs-là à discuter autour de la table. Donc il y avait, entre guillemets, l'opportunité pour tout le monde de dire, bah voilà, comment est-ce qu'on aimerait voir les choses, voilà comment on aimerait les mettre en place. Et aujourd'hui, c'est absolument pas une critique hein, par rapport à la fédération française, mais j'avais la sensation, moi, à l'époque, lorsque j'étais en France, qu'il n'y avait pas cette relation-là, entre guillemets, entre les clubs et la fédération, que c'était pas forcément les clubs qui allaient créer la fédération, mais plutôt que la fédération allait donner des axes d'orientation au club. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois, effectivement.
Et je pense que ça, c'est une des choses qui est fondamentale et qui est extrêmement différente entre les deux pays.
Comment s'est passée la gestion de la crise sanitaire aux Pays-Bas, au niveau des entraînements, des matchs ? Combien de temps vous avez coupé ? Comment vous avez repris ? Tu vas voir qu'ensuite, ma question, elle n'est pas innocente. Ça va permettre d'amener un sujet qui m'intéresse beaucoup.
Bah, la période de la pandémie, elle a été difficile pour tout le monde. Encore une fois, je pense que c'est culturellement, il y a des choses un petit peu différentes. La façon dont le gouvernement a géré ça aux Pays-Bas, c'était un petit peu différent qu'en France. On n'a pas eu de confinement total, donc c'était l'année dernière. Donc à part du confinement total en France, nous, on avait arrêté les entraînements pendant une période d'un mois. Et à l'issue de ce mois-là, on avait repris les entraînements. Donc c'était à raison à la base de 2 fois par semaine. Quelques semaines plus tard, on était repassé à 4 fois par semaine avec donc des entraînements sans contact. Et puis lorsqu'on avait entendu que pour les structures professionnelles, on allait pouvoir reprendre les entraînements avec contact, on avait refait une pause fin mai pour ensuite avoir tout le mois de juin l'année dernière. On avait fait séance classique. À la reprise au mois d'août, on avait pu rejouer des matchs amicaux, refaire des entraînements classiques. Et donc ça a duré jusqu'au mois d'octobre-novembre cette année, où les compétitions ont été arrêtées. On avait donc quand même le droit de continuer à s'entraîner. Lorsqu'il y avait des cas positifs dans le club, on a eu des périodes où on ne s'est pas entraîné. Et donc là, jusqu'au mois de juin cette année, on n'a pas été autorisé à faire des matchs, entre guillemets, contre des clubs extérieurs. Mais on pouvait par contre faire des oppositions en interne.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, j'en viens à ma question qui m'intéresse beaucoup. Et pour le moment, je ne sais pas si dans les clubs, on réussit à évaluer cette interrogation-là. Est-ce que tu crains que tous ces mois, alors à la fois, je vais les appeler les mois de perturbation, c'est-à-dire qu'il y a eu des mois sans match, il y a eu des longues séquences d'entraînement sans contact. Il y a eu aussi, tu le disais, une périodicité réduite de moitié, l'absence évidemment de compétition. Est-ce que tu crains que ça ait une conséquence chez, on va prendre un cas très pratique, chez les adolescents de ton groupe U14? Ça peut être soit un décrochage, par exemple, physique, mental, ça peut être le fait d'une perte, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, on progresse vite, mais on peut aussi, non pas régresser, mais perdre un peu techniquement. Est-ce que vous avez réussi à évaluer ça ? Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez pour les mois à venir ? Parce qu'on ne sait pas encore comment on va reprendre la saison prochaine. On espère que ça va reprendre normalement, mais rien n'est moins sûr non plus finalement. Est-ce que cette longue période de turbulence, de perturbation, a une conséquence chez les adolescents ?
Je pense que ça en aura une. Après, chaque club, entre guillemets, a géré un petit peu cette période un peu à sa façon. Il y a eu pas mal de choses là, qui ont été même partagées, que ce soit en France, j'ai vu aussi aux Pays-Bas, où entre guillemets, les coachs essayaient de garder contact avec leurs joueurs sur différentes façons. Nous, au sein du club, on avait proposé donc des différents défis techniques pour que les garçons puissent continuer à jouer, parce qu'ils avaient encore accès au terrain et qu'ils pouvaient encore sortir de chez eux. Il y avait aussi des programmes qui avaient été faits, entre guillemets, à base de renforcement musculaire, d'étirement. Et puis, concernant l'aspect, le suivi psychologique ou ainsi de suite, tous les ans au club, on avait des sortes de réunions avec l'équipe où on avait une diététicienne qui venait, où on faisait des actions pour sensibiliser les garçons par rapport à ça. Bah, aujourd'hui, ces sensibilisations-là, elles ont été faites de façon individuelle, par Zoom ou par Skype, peu importe. Mais on a vraiment essayé au sein du club voilà, d'individualiser auprès des garçons le suivi malgré cette période-là. Et je pense que ça a ouvert peut-être une voie des possibles. Aujourd'hui, au sein du club, donc on a 5 séances d'entraînement par semaine. Et ensuite, ils ont, avec les 14, on a 5 séances. Et il y a une séance, entre guillemets, de travail athlétique. Donc ça fait un total de 6 séances plus le match. Et cette année, on n'a fait que 4 séances terrain. Et en gros, cette cinquième séance, parfois, elle a eu lieu sous forme de Zoom, où il y avait une session d'étirement en ligne, où quelqu'un venait, intervenait, donnait des exercices. Et donc, les garçons se connectaient avec leur ordinateur depuis chez eux. Et aujourd'hui, la pandémie, elle a eu un impact sur tout le monde. J'essaie de l'avoir de façon positive, en me disant que nous, au sein du club, on a essayé de faire les choses bien. Alors, est-ce que des clubs ont fait mieux que nous, peut-être ? Est-ce que des clubs ont fait moins bien que nous ? Ça, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, il faut voir cette période-là comme une opportunité de peut-être revoir la façon dans laquelle on vit, de peut-être revoir la façon dans laquelle on s'entraîne, que peut-être on peut avoir une influence différente sur l'évolution et la vie de nos garçons et pas simplement au sein du club.
Et si je prends les joueurs avec lesquels tu travaillais en 2020, en mars 2020 et leur évolution ensuite jusqu'on va dire à juin 2021, il n'y a pas eu d'observation ou de difficultés particulières malgré tous ces mois sans match, sans compétition, sans contact parfois pour certaines séquences de semaines, etc. Vous n'avez pas senti en tant qu'éducateur où vous vous êtes dit « Ah oui, peut-être qu'il va falloir qu'on reprenne certains fondamentaux. Peut-être que la progression, elle est un peu ralentie à cause de ça. »
Aujourd'hui, par rapport à nous, à notre nombre de séances, je ne pense pas que les garçons aient moins progressé. Après, c'est sûr que lorsqu'on va jouer au travers du jeu, au travers du match, au travers de la compétition, il y a énormément de choses que les garçons vont pouvoir apprendre, essayer. Ça, bien évidemment, ils ne l'ont pas eu. Après, la chose qui est aussi importante, je vois cette année, donc on a donc dans un club professionnel, on a toujours cette notion du passage dans la catégorie supérieure. C'est sûr que lorsqu'on va dire à un garçon aujourd'hui qu'il n'est pas conservé, tout de suite, c'était « ouais, mais on n'a pas joué, j'ai pas pu montrer », ou ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous, au sein du club, on a essayé d'évaluer tout ça par rapport à ce qu'on a pu voir aux entraînements. Et ce qu'on remarque, c'est que là, cette année, malgré encore une fois les passages, il y a des garçons qui ont pris la décision d'arrêter le foot. On a deux garçons cette année-là qui passaient, donc un de U17 à U18 et un de U16 à U17. Deux garçons qui, malgré le fait qu'ils puissent passer dans la catégorie supérieure, ont eu décidé de ne pas continuer à jouer au foot la saison prochaine.
C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Alors, ce n'est pas non plus une ampleur incroyable pour le moment, mais quand on suit un peu l'actualité du football, c'est des cas qu'on a déjà entendus dans pas mal de pays. Et on en discutait juste avant de commencer l'enregistrement, mais il y a dans plusieurs clubs néerlandais, parce que on est, toi encore plus que moi, amené à suivre ce qui se passe dans les clubs néerlandais, où il y a des jeunes qui arrêtent. Alors parfois, c'est pas forcément avec un autre objectif direct derrière différent, mais on a eu aussi l'exemple d'un joueur de Feyenoord qui, lui, a décidé de se consacrer aux études et malgré un niveau prometteur, on va pas dire très prometteur, parce que c'est toujours un peu casse-gueule de parler du niveau des joueurs dans les équipes de jeunes, mais malgré un niveau assez prometteur quand même, a décidé de se consacrer aux études. Donc, est-ce que la pandémie aura pas eu aussi une influence sur ces jeunes adolescents-là ?
Je pense que si. La pandémie a peut-être déclenché certaines choses. Là, quand on parle de ce garçon-là de Feyenoord, donc c'était un joueur quand même sélectionné en équipe nationale, U19 Feyenoord, qui était sous contrat, qui aujourd'hui décide d'arrêter parce qu'il y a moins de plaisir, parce que ils se retrouvent peut-être pas forcément dans l'environnement actuel. Nous, aujourd'hui, les deux garçons là, qui ont décidé d'arrêter cette saison, la raison première, c'est le plaisir. Donc, ils avaient beaucoup moins de plaisir, et par rapport à tous les sacrifices qu'il fallait faire pour venir à l'entraînement, pour s'entraîner quasiment tous les jours, ben aujourd'hui, ces garçons-là s'y retrouvaient plus. Et on n'a pas forcément mis d'action en place au club. Mais c'est sûr que ça va être des sujets qui vont pouvoir être débattus lorsque des garçons qui sont, entre guillemets, dans ces structures-là décident d'eux-mêmes d'arrêter. Alors, il y a ce côté un peu individuel, c'est une décision qui est propre à cette personne, à ce joueur. Mais est-ce que nous, en tant qu'éducateurs, entraîneurs ou en tant que club, est-ce que quelque part, on n'a pas, je ne sais pas si le terme, c'est raté quelque chose, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas eu des alertes qu'on n'a pas vues? Et au final, par rapport à ce qu'on propose, nous, au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on doit pouvoir changer pour maintenir ce plaisir indispensable à la pratique?
C'est sans doute une question qui va se poser dans de nombreux clubs dans les semaines et mois à venir, quand la compétition va reprendre, notamment. Si des jeunes sont amenés aussi... ça a déjà commencé, hein, et pas seulement aux Pays-Bas, pas seulement à Emmen, ça a déjà commencé un petit peu partout. Si ces cas-là viennent à se multiplier, il y aura forcément une réponse à trouver, sans doute, du côté des clubs. Je reviens un instant sur la pandémie. Sur une question purement pratique, tu as commencé à l'évoquer, il y a eu des choses faites par Zoom, etc. Mais est-ce que les fameuses séances sans contact t'ont obligé, toi aussi, à t'adapter? Parce que j'imagine que dans ta formation, tu n'avais pas prévu de séquence où, pendant plusieurs mois, tu devrais t'entraîner sans contact, enfin, où tu devrais faire travailler tes jeunes sans contact. Comment toi aussi tu t'es adapté à titre personnel à cette situation-là avec tes joueurs?
Après, donc, nous, au sein du club, on va peut-être parler peut-être un peu plus technique, on va dire, c'est entre guillemets une ligne rouge, une ligne de conduite, donc sur quelles vont être les bases et les choses importantes à travailler en fonction des catégories d'âge. Et donc nous, sur les U13, U14, U15, on essaie de mettre l'accent un maximum sur le travail des principes de jeu du club. Et lorsqu'on se retrouve à devoir mettre en place des séances sans contact, bah, la première chose et la facilité, c'est bon, on va faire un travail technique où les garçons ne vont pas être les uns à côté des autres. Et donc pour nous, le challenge en tant qu'entraîneur, ça a été de réfléchir à des procédés, à des exercices, à des situations où on allait pouvoir, entre guillemets, continuer à travailler sur ces principes de jeu qui sont propres au club sans que les garçons soient en contact. Et ce qui était assez marrant, c'est que chaque entraîneur avait sa façon ou son idée de faire ça par rapport à sa séance d'entraînement. Et qu'au final, lorsqu'on se mettait en commun autour de la table, on se disait que peut-être qu'on aurait pu faire différemment et peut-être que l'idée de l'un va permettre de perfectionner l'intention de l'autre. Ce qui était, nous, plutôt agréable pendant ces périodes-là où, entre guillemets, on était sans contact l'année dernière, c'est que au sein du club, on n'avait pas le droit d'accueillir toutes les équipes sur le même créneau. Et donc, en fait, on était en général entre 4 à 6 entraîneurs sur chacune des séances. Donc, ce qui fait qu'on pouvait parfois travailler en petit groupe ou qu'alors un coach allait prendre une partie et que l'autre allait animer l'atelier suivant. Ce qui nous a permis, entre guillemets, d'individualiser ce travail-là. Et puis, au sein des séances, peut-être avoir un travail de finition, peut-être avoir un travail de conservation ou y aller avoir aussi de la variété pour les garçons.
Dans le foot, comme ailleurs, la réponse à différentes problématiques, elle est quand même souvent collective. C'est-à-dire que dans l'adaptation à des situations compliquées, rien ne vaut le partage d'expérience, rien ne vaut le partage de vision, le partage de différentes sensibilités pour trouver une réponse et permettre d'avancer malgré les difficultés.
Effectivement. Aujourd'hui, on n'a pas forcément évoqué le club d'Emmen, mais c'est une petite structure professionnelle aux Pays-Bas. Donc, c'est un club qui est resté de très très longues années, donc à ce qui est l'équivalent de la Ligue 2 en France. Ils sont montés à l'issue des playoffs il y a 2 ans maintenant. Ils sont redescendus l'été dernier. Et aujourd'hui, au sein du club, du fait qu'il y a une très petite structure, peu d'employés, ça permet d'une part de pouvoir connaître un petit peu tout le monde. Alors, quand je dis connaître, je ne dis pas que forcément je connais la vie et la vie personnelle de tous les employés du club, mais on sait qui est telle personne, on sait qui est le rôle de telle personne, quelle expérience ça peut avoir. Et aujourd'hui, on a aussi cette relation-là entre le staff technique, on va dire, des jeunes, et le staff technique de l'équipe première, où il y a énormément d'échanges. Et cette période-là de Covid, elle a accentué encore plus les échanges au sein du club. Pour moi, d'un point de vue personnel, c'était une période intéressante.
Pour les éducateurs qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire les sortes de résumés, entre guillemets, de ce qu'on a dit avant sur ton parcours, les choses qui ont été essentielles pour toi pour te construire en tant qu'éducateur? Ça peut être des étapes importantes, les échanges que tu as pu avoir, les voyages, les domaines connexes au football que tu as pu découvrir ou approfondir. L'idée, c'est pas de dire il faut faire comme ça, parce qu'il y a plein de chemins différents pour arriver à s'épanouir et à progresser et à devenir un éducateur qu'on a envie d'être déjà à travers sa personnalité, etc. Mais toi, quels ont été les moments marquants ou les choses marquantes qui t'ont permis de passer des étapes dans ton métier d'éducateur?
C'est difficile, mais je pense qu'il y en a plusieurs.
Ça ou des qualités, entre guillemets, où tu vois, par exemple, je pense que la curiosité, ça peut être des lectures, ça peut être des voyages, ça peut être juste aller dans un club observer certaines choses, ça peut être l'échange, avoir la curiosité de s'intéresser aux autres. C'est un élément qui me semble très important, en fait.
Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Comme tu le disais un petit peu en introduction, j'essaie toujours, voilà, quand je voyage, que ce soit d'un point de vue pour le foot ou d'un point de vue personnel, d'aller dans un pays, j'essaie toujours d'avoir un moment où je vais pouvoir aller dans un club, essayer de voir une séance, que ce soit dans un club amateur ou dans un club professionnel, ou d'aller voir un match et essayer de m'intéresser un petit peu à ce qui peut se faire, à comment est-ce qu'ils s'entraînent, combien de temps est-ce qu'ils s'entraînent. Cette notion de curiosité, elle est importante. Il y a aussi être ouvert un petit peu aux autres et à ce qui se passe autour de nous. Lorsque j'étais un jeune éducateur, j'étais toujours très concentré sur la discipline, toujours très concentré sur ce qu'allaient faire les garçons avec lesquels j'étais. Lorsque j'étais éducateur à l'école de foot à Nantes, on avait la chance de participer à pas mal de tournois, que ce soit en France, en Belgique, on en a fait aux Pays-Bas, il y en a en Allemagne, on est un petit peu partout. Et au final, ces moments-là, on vit quelque chose avec ces garçons, parce que voilà, c'est tout un contexte, on part en train, en avion, on va dans une ville différente. Mais il y a aussi là énormément de rencontres avec d'autres clubs. Et je sais qu'au début de ma carrière, j'étais assez renfermé. Je ne parlais pas beaucoup. J'étais souvent à regarder ce que faisaient les autres, mais pas forcément à échanger avec eux. Et puis au fur et à mesure, on prend de l'âge, on se rend compte que ces moments-là, c'est des moments un peu uniques. Et au final, on en profite plus quand on les partage avec les autres. À force d'aller sur les tournois, on rencontre les mêmes personnes, les mêmes éducateurs. Donc on est plus simplement adversaire, si je puis dire, mais entre guillemets, on est deux éducateurs de deux clubs différents qui vivent le même moment, le même instant. Et ça, ça a été pour moi quelque chose de très important.
Et on a encore deux petites questions pour finir. La première, on n'a pas forcément évoqué ça pour l'instant. Quelles sont les équipes ou les entraîneurs qui influencent ta vision d'éducateur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu regardes en priorité quand tu as le temps? Alors, ça peut être soit au niveau jeune, hein, ou ça peut être aussi au niveau professionnel de regarder certaines équipes qui correspondent soit à ta perception du foot, à ta sensibilité du foot, soit d'ailleurs pas du tout, mais ça te permet de comprendre, d'évoluer, de piocher certaines choses. Quand tu as le temps, qui, quel club, quels entraîneurs tu regardes en priorité?
Il y a le côté, on va dire, du fan. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu quelque chose de particulier pour Manchester United. Donc, je regarde, c'est un club que je regarde quasiment tout le temps, quasiment tous leurs matchs. Après, je ne vais pas forcément dire qu'il y a un coach qui m'inspire plus qu'un autre. Ou la plupart du temps, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Je ne vais pas dire que je trouve que Simeone à l'Atlético, je ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne au quotidien. Je ne suis pas avec lui, je ne peux pas entendre, je ne peux pas voir. Après, c'est sûr qu'il y a des entraîneurs, des équipes qui sont capables de faire des choses exceptionnelles. Hein. On peut parler de Guardiola, de Klopp, de Bielsa, de Simeone, de Zidane. Il y a énormément de noms et j'en oublie plein. Et j'espère qu'ils ne m'écouteront pas tous ceux que j'ai oubliés. Mais non, il y a énormément de choses. Aux Pays-Bas, une des personnes que je trouve... qui est encore extrêmement influente, c'est Louis van Gaal. Voilà, si je devais choisir aujourd'hui une personnalité aux Pays-Bas avec laquelle j'aimerais pouvoir déjeuner, ça serait Louis van Gaal.
D'accord. Et qui a pas toujours eu la même vision que l'idole de tout un pays, Johan Cruyff.
C'est ça, exactement. Et c'est une personne qui dégage quelque chose, qui peut avoir peut-être un côté un peu intimidant. Mais c'est une personne que j'aimerais rencontrer, j'aimerais écouter. Je pense que c'est aussi une des qualités, là, quand on parlait juste sur la question juste avant, peut-être que l'écoute aussi, c'est quelque chose d'important. Quand je parlais d'ouverture, il y a aussi cette notion d'écoute. Après, la dernière chose, par rapport aux influences, aujourd'hui, un éducateur qui est dans son club, que ce soit un club amateur, dans une grande ville, dans un petit village ou dans un club professionnel, s'il est tout seul et qu'il est centré sur lui et qu'il ne va pas chercher à regarder ce que font les autres et qu'il ne va pas chercher à échanger, bah, il ne va peut-être pas évoluer de la même façon que lorsqu'il est avec d'autres personnes. Aujourd'hui, je sais que dans le bureau au club, bah, je suis en contact quotidiennement avec les autres entraîneurs et donc automatiquement, ils ont une influence sur l'entraîneur que je suis en train de construire, on va dire.
On arrive au bout de l'entretien, Mathias, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ?
Il y a plusieurs, peut-être, catégories de personnes qui, d'après moi, seraient super intéressantes à entendre sur le podcast. Peut-être un dirigeant d'un club amateur ou même d'une structure professionnelle, une personne qui est peut-être retraitée, qui est là tous les jours, qui s'investit tous les jours, qui a cette passion. Mais au-delà de la passion, entre guillemets, c'est une personne qui est bénévole. Qu'est-ce qu'elle en retire de tout ce qu'elle fait au quotidien ? Ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. On en a aussi à Emmen et ces personnes-là, on les met pas forcément en avant. La deuxième, dans le foot, on a souvent tendance à parler de nos succès. Telle équipe a gagné, telle équipe est championne, telle équipe a fait ça, tel coach a succès, a écrit tel livre, que ce soit dans le foot, hein, même dans le basket, ou ainsi de suite. Peut-être, je ne sais pas si tu as des contacts, hein, mais avoir un entraîneur, je ne sais pas moi, qui a été relégué de Ligue 1 à Ligue 2, qu'est-ce qu'il a ressenti, comment est-ce qu'il a géré cet échec d'un point de vue personnel, comment est-ce qu'il l'a géré d'un point de vue familial, comment est-ce qu'il l'a géré au club, quelle analyse est-ce qu'il en a de cet échec. Ça pourrait être quelque chose qui, moi, m'intéresserait d'écouter parce qu'on ne met pas forcément en avant.
Ah, c'est bien connu que dans la société moderne, on ne valorise que les réussites. Ça, c'est clair. Et que l'échec est vu comme quelque chose de terrible, alors que finalement, on a tous connu des échecs professionnels à un moment ou à un autre.
Effectivement. Et oui, on n'en parle pas souvent, on n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Et je pense que parfois, ça pourrait aussi faire du bien à tout le monde de se dire bah, il n'y a pas que moi qui parfois ai des obstacles, il n'y a pas que moi qui parfois rate des choses. Et peut-être ma dernière, cette année, j'ai fait une formation. Donc je suis revenu en France pour passer une formation d'entraîneur. Donc ça, c'était un choix aussi de ma part. Mais peut-être interroger un formateur de la fédération. Donc il y a pas mal de régions, il y a pas mal de personnes, mais... Ces personnes de la fédération, ces cadres de la fédération qui travaillent avec l'objectif voilà, d'amener les éducateurs vers le diplôme, de partager des connaissances. Je pense que ce sont des personnes qui pourraient être aussi intéressantes à interroger sur quelles sont leurs motivations, comment est-ce qu'ils peuvent gérer leur frustration, comment est-ce qu'ils gèrent les relations avec les éducateurs qui n'arrivent pas à atteindre le diplôme. On ne les écoute peut-être pas assez, ils sont souvent disponibles pour les entraîneurs, mais on n'est peut-être parfois pas assez disponible pour eux.
C'est une très bonne conclusion ça, mais malheureusement je vais relancer une dernière fois. Donc la dernière question n'était pas tout à fait la dernière question. Tu as dit que le fait de revenir pour le diplôme, c'était un choix en France. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ? Et parce que du coup, tu pouvais aussi te mettre à niveau, enfin, ou passer le niveau supérieur aux Pays-Bas.
Oui, aujourd'hui, les diplômes d'entraîneur sont reconnus à l'échelle de l'UEFA. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui passe son diplôme en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre ou aux Pays-Bas, à la fin, il a le même niveau à l'échelle de l'UEFA. Chaque pays a un petit peu sa façon de voir la formation des entraîneurs. Nous, au sein du club, sur ces dernières années, il y a trois entraîneurs qui ont passé, donc c'est l'UEFA, trois entraîneurs qui ont passé ce diplôme-là. Et en fait, la structure de la formation, c'était un jour par semaine. Donc un jour par semaine, ils se retrouvaient donc à Zeist, donc c'est l'équivalent du Clairefontaine néerlandais. Et ils se retrouvaient là-bas, donc à échanger par petits groupes. Ensuite, ils allaient visiter un club, ensuite ils revenaient. Et en fait, il n'y avait pas forcément de suivi de terrain, il n'y avait pas forcément de mise en situation, à part la mise en situation au sein du club. Et moi, en tant qu'éducateur, entraîneur, on peut l'appeler comme on veut, formateur, aujourd'hui, au sein du club, je n'ai pas forcément d'évaluation, je n'ai pas forcément beaucoup de retours sur mes méthodes pédagogiques, sur ma posture pédagogique, sur ma façon d'amener les choses. Et en général, c'est quelque chose que moi, j'avais besoin, qui me manquait. Et en faisant cette formation-là aux Pays-Bas, je ne l'aurais pas eu. Alors que la construction de la formation en France, donc c'est sur différentes semaines, on passe des semaines complètes où on va être beaucoup sur le terrain tout en ayant aussi cet apport théorique. Donc ça, c'était une des raisons. Il y avait aussi la raison plus ou moins budgétaire. Le coût de la formation en France est moindre que le coût de la formation aux Pays-Bas. Moi, ça me permettait aussi de revenir quelques semaines voir ma famille sur Nantes.
Et pour donner une idée sur le coût, Mathias, c'est quoi, du simple double, du simple triple ?
Le coût de la après, en formation, il y a des en France, il y a les aides à la formation. Moi j'ai pas eu le droit, mais je sais que tous les éducateurs aujourd'hui français peuvent avoir des accompagnements avec leur club. Mais aujourd'hui, donc l'UFAA aux Pays-Bas, c'est 10 000 euros, alors qu'en France, il doit être aux environs 3 000 euros. Il y a une différence de budget. Et aujourd'hui, la formation française, c'est souvent très critiqué, et même les Français, on est souvent très, très critiques. Lorsque moi, j'étais en France, j'étais le premier parfois à exprimer un mécontentement par rapport aux formations ou par rapport aux régions. Mais il faut quand même dire que la France, elle est quand même très, très bien vue à l'étranger. Les gens, en général, que vous êtes français, que vous avez fait vos formations en France, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit même en Chine, ou ainsi de suite, les Français sont quand même... le diplôme est valorisé, en général. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est ce que j'exprimais à mes formateurs dernièrement, c'est qu'avec un peu de recul, je me rends compte, en fait, de leur démarche et de qu'est-ce qui est recherche, et que la recherche, elle n'est pas simplement de dire, il y a tel coach dans tel club, il a tel diplôme, et il va gagner tel truc. Non, c'est plutôt de se dire, quelle ligne est-ce qu'on a envie de mettre en place au sein des clubs. Alors, sur la structuration d'une séance à la française, on va avoir un jeu de découverte, un atelier technique, une situation et un jeu de fin. Peut-être qu'il y a quelques années, j'aurais été le premier à dire « ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Alors qu'aujourd'hui, avec la distance que je peux avoir d'un point de vue kilométrique, mais aussi la distance parce que je suis plus acteur, on va dire, au sein du pays, je me rends compte que peut-être que la fédération elle cherche un petit peu à uniformiser ce qui peut se passer dans les clubs. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que c'est une sacrée mission et c'est sacrément difficile.
Écoute, c'était intéressant d'avoir ton avis là-dessus, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de commentaires assez négatifs. C'est rien de le dire de manière générale sur la formation des entraîneurs en France. Et effectivement, avoir le retour de personnes qui découvrent aussi comment ça se passe dans d'autres pays, c'est évidemment un autre son de cloche tout à fait intéressant. Et malheureusement, j'ai pas de dernière question maintenant. Donc, je vais simplement te remercier, Mathias, pour ta disponibilité, pour ton temps et pour la qualité de cet entretien qui est très riche et qui va, je n'en doute absolument pas, plaire à nos éducateurs qui nous écoutent, et je les salue parce qu'il y en a quand même beaucoup, j'ai beaucoup de retours en sens, et aussi aux autres personnes tout simplement qui s'intéressent au football et pour qui l'avis de comment se passe le football à l'étranger dans d'autres pays est toujours très enrichissant. Merci beaucoup Mathias et
merci
à très vite.
À toi, Yvan. À bientôt, au revoir.
Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts si vous avez apprécié le contenu de cet entretien, c'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.